En 1989, pour ouvrir une salle de rock innovante telle que l'Aéronef, il fallait quelqu'un capable de bousculer des habitudes et de défoncer quelques portes, avec volontarisme, mais avec le sourire. Jean-Pascal Reux était celui-là, ouvert à toutes les cultures innovantes et aux musiques curieuses, humaniste exigeant sur les croisements entre artistes généreux et publics passionnés, toujours sur la brèche pour trouver une nouvelle idée, nous amenant vers d'autres univers, d'autres échanges. Un allumeur de feux d'artifice. C'est avec ce texte d'Emmanuel Vinchon que l'équipe de l'Aéronef a annoncé ce week-end la disparition de Jean-Pascal Reux, un des fondateurs de la salle de spectacle lilloise, lundi 15 janvier dernier. En guise d'hommage, on vous propose de le réécouter au micro de Nico. C'était les 18 et 19 octobre 2019 pour les 30 ans de l'Aéronef. Il nous parlait des débuts de l'aéro.
Ça a été une longue gestation parce que c'est un projet. En fait, on voulait copier nos voisins belges, hollandais, allemands et autres ailleurs qui investissaient des lieux et qui présentaient la culture d'une génération, on va dire, de moins de 30 ans. Et donc, le projet d'une salle à Lille a commencé à mûrir au début des années 80. Mais il a fallu beaucoup de temps, en tout cas, à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec l'âge, peut-être pas tant que ça, mais au moins 6-7 ans, afin de convaincre les élus, les administrations, de nous aider à monter un tel projet. Le projet est né en 89 sur un mensonge. J'ai rencontré l'adjointe à la culture de Lille, qui m'a dit qu'il y a l'opportunité d'avoir un théâtre qui a servi à la salle Amandre. À l'époque, c'était le Centre Dramatique National. Et ça serait bien que vous fassiez un projet autour du jazz et de la jeune création théâtrale et chorégraphique. J'ai dit oui, madame. Et il y a eu du jazz, il y a eu de la danse, il y a eu du théâtre, mais il y a eu aussi beaucoup de rock et de musique actuelle, naturellement. Voilà, c'est né comme ça en 89. Donc ça a mis du temps à se faire, mais bon, elle l'a fait. Donc avec les amis, avec Emmanuel Vinchon qui est à côté de moi, avec Nathalie Robert qui est encore dans l'aéronef d'aujourd'hui, Nicolas Robichet et beaucoup d'autres. Tout ça s'est fait en quelques mois. La programmation s'est faite en juin pour le mois de septembre. C'est une autre époque. J'ai contacté Bachung en juin, vraiment. Et bon, voilà, lui, il voulait répéter sa prochaine tournée. Nous, on allait ouvrir en début septembre. On a tapé dans la main une semaine de répétition pour lui et nous, deux concerts d'ouverture. Et l'aventure a démarré là. Elle a failli s'arrêter au bout de la première année, puisque les voisins et notamment les propriétaires estimaient qu'on faisait beaucoup trop de rock'n'roll. J'avais loué le lieu que pour un an, puisque c'était avec mes sous personnels. Je ne me voyais pas me mettre dans une mouise pendant plusieurs années. Mais le succès aidant, on a pu rester à l'aéronef, on a eu quelques turbulences parfois, notamment budgétaires naturellement, et puis les choses se sont stabilisées jusqu'à la proposition de Pierre Morrois de venir ici à Euralille. C'était le futur Euralille à l'époque, là on est en 1990, donc le TGV, le Transmanche, ce nouveau quartier, c'était l'occasion de passer l'aéronef dans un nouveau cœur de la ville.
On rencontre encore des gens qui sont nostalgiques de la rue Colzon par rapport à ici. Comment vous voyez ça, l'ambiance là-bas et l'ambiance ici aussi, enfin, pas seulement l'ambiance, mais le projet finalement, quoi.
Ouais, les ambiances, je peux pas les comparer parce que en fait, j'ai dirigé ici pendant un an avant de vivre d'autres aventures. Aujourd'hui, je suis plutôt très loin. Je suis à Brest, au bout du monde, dans le Finistère. Et donc voilà, je ne peux pas comparer les ambiances entre une époque. Et ce n'est pas comparable non plus. Évidemment, on est toujours vieux con quand on parle. Voilà, j'ai 60 ans aujourd'hui, j'avais 30 ans quand j'ai créé l'aéronef. Mais c'est une autre époque à beaucoup de points de vue. C'est une époque où la bande de potes qui était avec moi, on n'hésitait pas à travailler 15-20 heures par jour et tout ça dans une passion folle et... Folle et terrible. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Donc, il faut bien mesurer les choses. Et je pense, d'une certaine manière, ça devait ressurgir sur les spectateurs. C'était une vraie folie. On avait inventé la carte de décollage pour un prix modique, à l'époque c'était 500 francs, donc ça fait moins de 100 euros, donc 90 euros, avec l'accès pour les 150 concerts de l'année. Donc les gens venaient, repartaient. C'était la première fois qu'il y avait une salle de concert à Lille avec un bar. Bon, il y avait cette nouveauté. Aujourd'hui, les salles de musique actuelles, il y en a une centaine partout en France. Il y en a même à Brest, une très belle, la Carême. Mais je ne peux pas comparer les ambiances. Par contre, moi, je salue le travail qui est fait. Je sais qu'il y a eu des turbulences, il y a eu des moments où l'aéronef était moins proche de ses valeurs fondamentales, initiales, de découvert, de toujours vouloir faire découvrir, mais aussi faire ressentir des chocs culturels, artistiques, émotionnels aux spectateurs. Et aujourd'hui, avec l'équipe de Benoît Aula, j'ai le sentiment que, et pour preuve cette soirée, ce week-end des 30 heures, que l'esprit est toujours là. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me touche sincèrement au cœur. 30 ans après, qui l'eût cru, cette salle existe toujours et l'esprit existe encore, je crois aussi.
Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers, qu'ils soient bons ou mauvais, des souvenirs marquants? J'imagine qu'il y a pas mal d'anecdotes qui tournent autour de vos souvenirs.
Oui, puis ils sont racontés, je crois, ici et là pendant cet anniversaire. On cite beaucoup. Pour moi, c'est un moment important. C'est le concert de la Mano Negra qui devait se dérouler, je pense, en novembre 89, donc deux mois après l'ouverture. Un succès fou, mais aussi, je vous l'ai dit, on n'avait pas tout à fait les mêmes règles, les mêmes consignes et surveillance de sécurité. On a dû accueillir bien plus de monde qu'on le devait ou qu'on le pouvait. Et là, je pense que c'est... Bon, avec, donc, on le sait tous, une avant-scène qui a failli craquer, qui était en bois, avec un pogo d'enfer. Et cette soirée-là a été, je pense, vraiment un tournant parce que tout aurait pu s'arrêter là. Mais je crois qu'on s'est rendu compte aussi que c'était pas seulement une aventure, c'était aussi un métier, des compétences, des règles à respecter. Et donc l'aéronef s'est professionnalisé à partir de là. Donc je veux pas oublier la soirée de folie qu'on a vécue et que j'ai encore en mémoire, vraiment. Mais elle était folle à plein de titres, et bon, la Mano Negra y a joué aussi dans cette folie là quoi. Voilà, c'était vraiment un déclencheur. C'est la première fois que la salle était rate à pleine aussi comme ça. Au départ, les deux concerts avaient réuni le public attendu, mais ensuite on avait une programmation tellement éclectique. Puisqu'on avait des castras qui venaient chanter, du jazz, des musiques du Bangladesh, des choses peu connues. On se disait, c'est bien, donc les gens vont venir. Bah non, pas toujours. Il fallait déjà qu'on fasse les preuves que tout ce qu'on allait présenter que les gens ne connaissaient pas était de qualité. C'est venu au fur et à mesure comme ça. Et donc ce concert-là, le premier vraiment rate à plein, a été le déclic, je pense, pour tout le reste.
Vous êtes passionné de musique. Au niveau artistique, un choc culturel que vous retenez dans ce que vous avez vu ici ou là-bas à l'aéronef?
Oh non, je ne peux pas répondre à cette question. Et puis, on n'a jamais confondu nos passions personnelles avec la programmation. L'enjeu était de présenter l'actualité, la culture actuelle de l'époque. Donc il y a des choses que personnellement j'aimais pas du tout, et tous les amis avec moi c'était la même chose, mais bon voilà, il fallait les présenter à ceux qui aimaient ces styles ou ces musiques ou ces autres artistes quoi. Non, enfin je peux citer les Residents, Sakamoto, enfin qui sont plus dans ma culture. C'est pas pour autant que c'était les meilleurs concerts que j'ai vus ou que j'ai vu d'eux. Bachung a un rôle un peu particulier dans cette salle. On le sait à la rue Colson, mais on le sait aussi ici à Euralille. En plus, c'est une vieille histoire, Bachung et moi et nous, parce que j'avais été chargé par le ministère de la Culture en 85 d'organiser Coup de talent dans l'Hexagone, qui était c'était Jacques Lang. Il amenait des millions pour dire la culture, c'est pas que l'opéra, etc. Et voilà, c'était pour... pour permettre aux jeunes créateurs dans tous les domaines d'émerger. Et on devait finir cette manifestation d'une semaine avec Bachung. Il s'est cassé le pied ou la hanche ou je ne sais quoi d'autre la veille du concert. Donc voilà, l'ouverture et son parrainage a été une revanche. Là, je parle de c'était en 85, hein, quelques années avant. Et puis c'est quelqu'un ensuite qui a suivi l'aventure, qui on le sait, qu'on a parlé autour de lui aux autres artistes en disant « Ah, il y a un truc là-bas, c'est un peu différent ». Bon, voilà, donc c'est le personnage qui suit d'une manière ou d'une autre cette aventure de l'aéronef.
C'était un retour sur une interview de Jean-Pascal Reux, un des fondateurs de l'aéronef, dont on a appris la disparition lundi 15 janvier dernier. Une interview réalisée par Nico en 2019 à l'occasion des 30 ans de l'aéro.